Deutsche Welle, Info, Matin. Bonjour à toutes et à tous, il est 7h en temps universel, 2h de plus dans nos studios à Bonn. Merci de nous rejoindre sur les ondes de la radio internationale allemande. Nous sommes le lundi 20 août, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Et au micro ce matin, Wendy Bachy un peu essoufflée et Sandrine Blanc. Ah, bonjour Sandrine.
Bonjour, un petit peu essoufflée aussi. Il faut dire qu'on a couru pour venir dans ce studio, pardonnez-nous. Au Mali, c'est ce matin que la Cour constitutionnelle doit proclamer les résultats définitifs de la présidentielle. Entre-temps, Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, parle d'un hold-up électoral. Vous pourrez écouter un entretien exclusif qu'il nous a accordé.
20 août 2015, 20 août 2018, 3 ans que Pierre Nkurunziza a prêté serment comme président du Burundi pour un troisième mandat controversé. Reportage dans les rues de Bujumbura pour voir s'il reste des poches de contestation, notamment chez les jeunes.
Et puis c'est aujourd'hui la date limite fixée à l'Aquarius, ce navire spécialisé en sauvetage de migrants en mer Méditerranée, pour renoncer au pavillon de Gibraltar. Explication et analyse d'ici quelques minutes.
Et comme tous les matins, bien sûr, Ali Farhat, on vous retrouve pour prendre des nouvelles du côté du sport. Bonjour Ali.
Bonjour à toutes et à tous. On parlera notamment de la Coupe d'Allemagne avec cette grosse surprise. Eintracht Francfort, tenant du titre, a été sorti par Ulm, pensionnaire de 4e division. Sinon, on parlera également des compétitions continentales sur le continent africain, ainsi que de tennis avec la victoire de Novak Djokovic à Cincinnati.
Merci beaucoup. Et bien sûr, comme tous les lundis, on vous proposera un extrait de notre magazine « Droits et libertés ». Alors nous commençons cette édition matinale avec un rapide tour d'horizon de l'actualité internationale. C'est avec vous Sandrine Blanchard en Afghanistan. Le président annonce un cessez-le-feu.
Oui, le président Ashraf Ghani a déclaré une trêve de 3 mois avec les talibans, à condition toutefois que ceux-ci interrompent également les combats. Mais ce matin, les autorités afghanes annoncent que des combattants talibans auraient pris une centaine de personnes en otage. Il s'agirait des passagers de 3 bus qui circulaient dans le nord du pays. Au Yémen, un groupe Houthi affirme ce matin avoir lancé un missile sur l'Arabie Saoudite dans la province du Najran. Des pourparlers de paix pour le Yémen sont prévus début septembre à Genève. Par ailleurs, en Arabie Saoudite, plus de 2 millions de fidèles sont attendus pour le pèlerinage musulman annuel de la Mecque qui a débuté hier. Le bilan des inondations en Inde dans l'état du Kerala, revu à la hausse, la décrue a permis de retrouver de nouveaux corps et le nombre de victimes de cette mousson exceptionnelle cette année est estimé à plus de 400 morts. 700 000 personnes ont dû quitter leur foyer à cause des précipitations.
Alors Sandrine, de nouvelles retrouvailles poignantes, ça se passe en Corée.
Mais plusieurs dizaines de Sud-Coréens assez âgés sont passés ce matin au nord. Ils y avaient rendez-vous avec des parents qu'ils n'avaient pas revu depuis la guerre de Corée, c'est-à-dire depuis les années 50.
C'en est fini du troisième plan de crédit accordé à la Grèce par le mécanisme européen de stabilité.
La Grèce va devoir faire face pour la première fois depuis 9 ans sans aide financière internationale. Le mécanisme d'aide avait été mis en place par l'Union européenne et le FMI pour éviter la faillite à l'État grec. C'était en 2010. Le pays a reçu près de 290 milliards d'euros. En contrepartie, l'État a accepté des réformes drastiques du système de retraite, des réductions de salaires et des pensions, des mesures d'austérité qui ont plongé une partie de la population grecque dans la pauvreté. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, menace de renvoyer le navire Di Ciotti et les 177 migrants qui sont à bord en direction de la Libye. Rome réclame davantage d'aide européenne dans la lutte contre l'immigration irrégulière.
Sandrine, on va peut-être boucler ce flash avec une journaliste allemande qui est accusée de terrorisme et qui a été autorisée à quitter la Turquie.
Oui, les charges retenues contre Mesale Tolu ne sont pas abandonnées, mais la journaliste a le droit de regagner l'Allemagne. Âgée de 33 ans, la jeune femme avait été libérée de prison en décembre dernier après 7 mois derrière les barreaux, mais interdite de quitter le territoire turc. Les autorités l'accusent de proximité avec le PKK kurde. Son époux et co-accusé Suat Çorlu est toujours assigné à rester en Turquie.
Merci beaucoup Sandrine Blanchard. Il est presque 7h50 temps universel et vous écoutez bien sûr les ondes de la Deutsche Welle. Yeah. Au Mali, Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, revendique sa victoire au second tour de l'élection présidentielle avec près de 52% des voix contre un peu plus de 48% des voix pour son adversaire et président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Il rejette donc en bloc les résultats partiels proclamés par les autorités électorales qui donnent au contraire Ibeka largement vainqueur.
Ce week-end, le parti URD de Soumaïla Cissé et puis les plateformes d'alliance qu'ils soutiennent ont tenu un point presse, puis une grande marche pacifique à Bamako pour dénoncer, je cite, la dictature de la fraude qui aurait été instaurée selon eux par le camp Ibrahim Boubacar Keïta. Il en appelle Soumaïla Cissé à la communauté internationale pour mettre un terme à ce qu'il qualifie de hold-up électoral en cours au Mali. Mahamadou Khan, notre correspondant à Bamako, a pu s'entretenir avec Soumaïla Cissé en marge de cette marche organisée donc à Bamako ce week-end.
Je crois que la vérité finit toujours par triompher. Nous avons assisté à une élection qui s'est très mal passée. Déjà au premier tour, vous avez vu que tous les candidats ont dénoncé la fraude. Nous avons voulu sauver ceux qui en restaient en espérant que l'autre camp allait se ressaisir, allait travailler au moins dans le sens de la transparence. Malheureusement, ils ont continué dans la fraude puisque ça a réussi la première fois. Cette fois-ci, on ne s'est pas laissé faire parce que nous avons débusqué la fraude. Et je pense que l'ensemble de la communauté internationale, tous ceux qui sont venus au Mali, savent qu'il y a une fraude. Et que le président, s'il est installé dans ces conditions, serait vraiment installé sur du faux. Alors nous nous sommes évertués à justifier nos chiffres, à présenter cela devant le public et devant l'ensemble de la presse, pour montrer que dans un bureau de vote qui ouvre pendant 10 heures, on ne peut pas faire voter 250 personnes, à fortiori 700, 800 personnes comme nous avons vu dans d'autres fois. Tout chiffre, tout nombre de votants, tout nombre de bulletins qui dépassent un certain seuil, c'est du bourrage. L'une des premières réformes que j'avais faire, c'est la réforme du système électoral, de faire en sorte que ceux qui organisent les élections soient des gens indépendants, des administrations indépendantes.
Mais le régime vous reproche d'avoir été quand même de la partie dans l'élaboration de la nouvelle loi électorale.
Non, être de la partie de la loi électorale quand on est une minorité et que nous sommes au total 33 députés sur 147, il est évident que notre voix ne compte pas. Nous avons boycotté, nous avons voté contre, nous avons fait des motions de censure, nous avons fait des amendements. Mais la loi, c'est la loi, c'est la majorité qui décide.
D'ores et déjà, le président français Emmanuel Macron a félicité le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, dit même que son prédécesseur François Hollande. Est-ce que quelque part, ça a réduit un peu votre marge de manœuvre?
Non, je crois que le Mali, c'est le Mali, la France, c'est la France. Le président Macron et le président Hollande, ils agissent en tant que Français. Moi, j'agis en tant que Malien. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai pas félicité le président, parce que la pratique dans notre zone, c'est d'attendre la Cour constitutionnelle. Je ne m'en offusque pas à votre mesure.
Monsieur Soumaïla Cissé, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était donc Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition malienne, qui était interrogé par notre correspondant sur place, Mahamadou Khan. Élection au Mali toujours. Cette fois, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que des partisans de Soumaïla Cissé ont fait entendre leur voix hier lors d'un meeting organisé à Trècheville. Et ce meeting de protestation était qualifié de parodie électorale. Pour les partisans de Soumaïla Cissé, la récente élection présidentielle malienne n'a été ni transparente ni inclusive.
Au Burkina Faso, connu pour ses prises de position sur les réseaux sociaux et ses multiples publications pour dénoncer ce qui, selon lui, ne fonctionne pas dans la société burkinabé, Naïm Touré a recouvré la liberté. C'était hier. Il a passé 2 mois en prison. Il avait été condamné au mois de juin dernier pour, entre autres, incitation à l'ordre, au désordre public et participation à une entreprise de démolition des forces de défense et de sécurité.
Au Nigeria, à présent, 186 personnes ont été tuées par une épidémie de choléra selon le Centre national de contrôle de maladies qui annonce que 16 000 malades ont été recensés jusque-là dans le pays.
Et toujours au Nigeria, au moins 19 personnes ont été tuées dans la région de Gouzamala dans l'état de Borno. C'est dans le nord-est du Nigeria. Une information de nos confrères de la BBC.
Et en bref, c'est ce week-end qu'a été inauguré un pont transfrontalier entre l'Algérie et la Mauritanie. Une initiative qui survient depuis l'accession à l'indépendance de ces deux pays qui visent à consolider leurs liens économiques.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Cela fait trois ans, jour pour jour, que le président Pierre Nkurunziza a prêté serment au Burundi. C'était le 20 août 2015 pour un troisième mandat controversé. Un mandat que certains voient encore d'un œil critique aujourd'hui.
Mais trois ans plus tard, beaucoup de jeunes sont toujours dans une situation précaire, parfois au chômage. Et comme vous allez le voir dans ce reportage d'Antedi Testeniraguera à Bujumbura, beaucoup de jeunes de la capitale dénoncent le népotisme et la corruption, notamment dans la recherche et l'octroi d'emplois.
Il y a encore du népotisme qui s'applique encore, surtout au moment d'engager.
Souvent, on exige de l'expérience. Dans les appels d'offres, souvent, on mentionne des années d'expérience, 5 ans d'expérience. Alors, dans ce cas, les jeunes sont éliminés.
Ce sont certaines des difficultés des jeunes au Burundi en quête d'emploi. Le chômage frappe particulièrement cette catégorie de la population. Plus de 65% des jeunes de 18 à 35 ans sont des chômeurs. Alors, ils saisissent toutes les occasions d'appel d'offres, bien que leurs chances soient très réduites. Capitoline Niyomuru est une lauréate d'université à la recherche du premier emploi.
Dans les ministères, on recrute s'il y a quelqu'un qui est mort. Il y a des cas où si on veut un travailleur, on exige une somme d'argent. Un ami ou ton père peut te favoriser à entrer dans une fonction quelconque pour avoir un poste. Les jeunes n'ont pas de place, n'ont pas cet argent pour avoir cet emploi.
Chaque année, les étudiants terminent les études et beaucoup se retrouvent dans la rue. Certains jeunes déplorent qu'il n'y a pas eu au cours des trois dernières années des réformes majeures en rapport à la politique d'emploi pour eux. Mais en revanche, d'autres mettent en avant les avancées dans la lutte contre le chômage malgré les imperfections. Gérard Hakizimana, président de l'association de lutte contre le népotisme et le favoritisme, fait une analyse nuancée de la situation.
Nous voyons qu'il y a l'évolution, mais on constate aussi que dans les privés, il y a encore du népotisme qui s'applique. Les écoles privées qui utilisent le népotisme, les hôpitaux aussi. Au niveau de l'État, on voit des appels d'offres ici et là. Et au niveau de l'État, il y a beaucoup de papiers exigés que ces documents soient diminués.
Pour l'heure, beaucoup de jeunes s'épuisent dans les recherches d'emploi jusqu'au dégoût. Ils sont alors de plus en plus nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat et la création de leur propre emploi pour ainsi réduire le taux de chômage qui ne cesse de grimper chaque année. Nous devons nous assurer une autonomie économique afin de mettre un terme à toute forme de manipulation politique accentuée par le chômage, confie un jeune entrepreneur dans la capitale. Antedi Testeniraguera à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Nous restons dans la région des Grands Lacs, à Uvira, une ville frontalière au Burundi, entre le Burundi et la RDC. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort samedi lors d'affrontements opposant plusieurs factions rebelles, dont des rebelles burundais. Ça se passait dans le groupement de Bijombo. Et selon SOS Média Burundi, des maisons ont été brûlées et des biens ont été pillés lors de ces affrontements.
Et le gouvernement congolais et ses partenaires ont décidé de rendre les soins gratuits dans 17 centres de formation sanitaire à Beni, dans le Nord Kivu. Beni qui est frappé depuis plusieurs semaines par une épidémie d'Ebola. Jusqu'à présent, les chiffres officiels du ministère de la Santé font état de 90 cas signalés, 63 confirmés et 27 cas de malades probables d'Ebola.
République démocratique du Congo, toujours le pasteur André Bokundwa Bolikabé, président de l'église du Christ au Congo, a lancé un appel à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, pour se pencher sur les questions qui fâchent. Il entend par là la machine à voter, le fichier électoral, le financement, ainsi que la logistique pour pouvoir organiser des élections apaisées.
Et puis encore le site d'actualité.cd. C'est aujourd'hui en RDC que démarrent dans l'ensemble du pays des opérations qui visent à assainir le corps académique et notamment à traquer les enseignants qui seraient détenteurs de faux diplômes. Et je vous renvoie sur notre site internet au podcast de Droits et Libertés et à la série de 5 reportages consacrés à la RDC, dont l'un parlait justement des dérives dans le milieu de l'enseignement.
Et si vous souhaitez réagir à l'un des thèmes développés dans ce journal ou tout autre sujet, n'hésitez pas à nous le faire savoir via notre page Facebook.
Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
C'est aujourd'hui qu'expire le délai donné par le gouvernement de Gibraltar pour retirer son pavillon à l'Aquarius. Pour justifier cette décision, les autorités évoquent le fait que le navire qui réalise des opérations de sauvetage en mer n'est pas enregistré pour mener de telles activités par le territoire britannique.
Un argument récusé par SOS Méditerranée qui affrète aux côtés de Médecins Sans Frontières le navire, propriété d'une société allemande. Le commandant Ezzedine Kassim est docteur en droit maritime et selon conduit. La décision de Gibraltar de retirer son pavillon n'est pas légitime. Il explique pourquoi au micro de Carole Assignon.
Pour donner une idée sur le pavillon de Gibraltar, il est un pavillon de complaisance, ce qu'on appelle des pavillons de libre immatriculation. Alors ce sont des pavillons soumis à tout ce qui est des actes administratifs et des actes de fiscalité. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit international sur les pavillons de complaisance, parce qu'il y a des pavillons nationaux pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre. Il y a des pavillons de complaisance tels que à Gibraltar. Mais en même temps, Gibraltar, elle est sous la loi anglaise. Alors, elle doit appliquer la réglementation internationale. Alors, le pavillon et l'armateur n'ont pas une responsabilité directe sur le sauvetage en mer.
Est-ce que Gibraltar peut retirer son pavillon à l'Aquarius,
puisqu'il y a des discussions. Non, il y a un contrat qui est conclu entre Gibraltar et puis les affréteurs de l'Aquarius, ce n'est pas l'armateur, mais les affréteurs qui sont SOS Méditerranée et puis Médecins Sans Frontières, pour mettre le pavillon de Gibraltar sur leur navire. Et Gibraltar touche de l'argent pour ça. C'est une convention pécuniaire et fiscale aussi. Il n'y a pas de légitimité parce que ce sont des conventions internationales dont Gibraltar, qui fait partie de la loi anglaise, et l'Angleterre en elle-même, elle a signé, mais elle a les conventions internationales. Il n'y a pas une raison pour retirer un pavillon à cause d'un sauvetage en mer, parce que ça, c'est la responsabilité des capitaines et des États.
Dans quel cas on peut retirer à un navire son pavillon?
Seulement s'il y a des obligations lors de l'élaboration d'un contrat pour avoir la nationalité ou bien le pavillon, s'il ne paye pas de l'argent qui doit être versé à Gibraltar par les affréteurs, ou bien s'il touche à la sécurité de l'État.
Si éventuellement Gibraltar venait dans tous les cas retirer son pavillon à l'Aquarius, le navire tomberait sous le pavillon de l'Allemagne. Dans ce cas, quel serait l'avenir de ce navire?
Il peut revenir à son pavillon national de l'Allemagne, comme il peut avoir un autre pavillon, comme le Panama, comme l'Honduras, ce qu'on appelle les pavillons de libre immatriculation.
En bref, le corps de 8 migrants ont été repêchés au large de la Tunisie pendant le week-end, selon le colonel Oussemedine Djebali, le porte-parole de la garde tunisienne, qui a confirmé que jusque-là, leur identité n'a pas encore été confirmée. L'heure est venue à présent pour nous de retrouver un extrait du magazine Droits et Libertés. Cette semaine dans Droits et Libertés, nous revenons sur une polémique qui fait rage en ce moment en Allemagne. Faut-il, oui ou non, réinstaurer un service militaire obligatoire ?
Natürlich ist schon feststellbar, dass die russischen Aggressionen.
Bien sûr, l'annexion de la Crimée et le conflit en Ukraine, c'est une situation qu'on ne pouvait pas imaginer au début des années 2000. Oui, le climat politique est de plus en plus tendu, mais un service militaire obligatoire n'est pas la bonne solution. Je considère qu'il est louable de rendre service à l'État, mais il ne faudrait pas rejeter cela seulement sur les jeunes.
Nous revenons aussi sur les 50 ans de la répression par les chars soviétiques du printemps de Prague.
C'est la première fois dans l'histoire que l'on a la preuve que des services de renseignement d'un pays s'autorisent à espionner aussi les citoyens d'un pays ami.
Retrouvez le magazine Droits et Libertés le mardi et le jeudi à 17h30, temps universel.
Deutsche Welle, le sport. Ali Farhat.
Ali, un week-end qui a été riche en événements, donc ce week-end qui vient de passer avec notamment la Coupe d'Allemagne.
Et une grosse surprise lors de ce premier tour de Coupe d'Allemagne, une surprise qui a eu lieu samedi. Dans le sud du pays, l'Eintracht Francfort a été éliminé par Ulm, une équipe de 4e division. Stefan Kindle et Vitali Lux sont les héros de la rencontre. Gonzalo Paciencia a réduit la marque en fin de rencontre pour Francfort, mais trop tard. Tenant du titre, l'Eintracht s'incline 2-1 et est éliminé dès son premier match de Coupe cette saison. Une défaite logique selon le défenseur Dani Da Costa.
C'est très dur ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Nous voulions montrer d'entrée de jeu que nous avions envie de nous qualifier pour le tour suivant, sauf que c'est tout l'inverse qui s'est produit. Nous avons eu beaucoup de mal, ainsi que beaucoup de chance de voir une frappe de l'adversaire finir sur notre poteau. Nous n'avons pas réussi à concrétiser nos occasions. Nous avons pris 2 buts parce que nous n'avons pas été efficaces. Ça fait mal.
Il y a une autre équipe de première division qui est tombée, c'est Stuttgart.
En déplacement dans le nord-est de l'Allemagne, Mario Gomez et ses coéquipiers ont subi la loi du Hansa Rostock qui s'est imposé 2-0 grâce notamment à un but de Sebio Suku d'origine béninoise. Sinon, les autres clubs de l'élite n'ont pas eu trop de difficultés, dans l'ensemble du moins. Certains ont même réalisé des cartons comme le Borussia Mönchengladbach, vainqueur 11-1 de Hachstedt.
Et là, un grand merci à San Plea, à Raphaël, à Hazard, à Neuhaus.
Tous ces jeunes. Ces jeunes poulains, l'un d'entre eux.
Il fallait quand même le mettre un petit peu plus en valeur.
Sur la pelouse de Kaiserslautern, même score pour le Werder Bremen sur la pelouse de Worms. De son côté, Hanovre est allé gagner 6-0 face à Karlsruhe. Ça passe également pour le Fortuna Düsseldorf. Le promu s'est imposé 5-0 à Koblenz.
Et puis, contre toute attente, le Bayern Munich a eu quelques difficultés, Ali.
En déplacement dans le nord de l'Allemagne, les Bavarois se sont heurtés à une équipe de Drortesen Assel très solidaire. Néanmoins, le club de 4e division a fini par craquer en fin de rencontre suite à un but à la 82e minute de Robert Lewandowski. Victoire 1-0 du Bayern Munich face à une équipe qui n'a pas démérité, comme l'explique le milieu de terrain Leon Goretzka.
Quand on n'est plus habitué à jouer dans ces conditions, cela peut être compliqué, surtout quand l'adversaire joue le match de sa vie. Quand tu marques dans les premières minutes, tu plombes l'ambiance et tu peux inscrire 6-7 buts derrière. Mais quand l'adversaire parvient à ne pas prendre de buts, il gagne en confiance au fil des minutes. C'est pourquoi nous avons gagné de justesse aujourd'hui.
Ali, est-ce que ça laisse présager d'une mauvaise saison pour le Bayern Munich ? Il y en a déjà qui se réjouissent de ne pas le voir devenir champion cette année.
Non, ça on ne sait pas. Après,
c'est un peu tôt. Hein.
Je veux dire, c'est juste le début de la saison et c'est juste une simple mise en jambe.
Voilà, ça n'augure pas forcément des résultats dans les prochains mois. Bon.
On ne sait pas, on verra. Ce soir, 4 matchs au programme, la fin de ce premier tour, dont 3 concernant des équipes de Bundesliga. Le Hertha Berlin se rendra à Brunswick, tandis que Fribourg se déplacera à Cottbus. Enfin, le Borussia Dortmund affrontera le Greuther Fürth et coup d'envoi de la rencontre prévu à 18h45 en temps universel.
Et j'en connais un qui sera devant sa télé.
Tout à fait.
On jouait également sur le continent africain ce week-end.
Avec l'avant-dernière journée de la phase de poule des compétitions continentales, en Ligue des Champions, El Ahly est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse de l'Espérance sportive de Tunis et s'empare de la première place du groupe A. Les deux géants du continent qui comptent 10 points sont qualifiés pour les quarts de finale. Malgré sa victoire 1-0 face aux Township Rollers, le club ougandais du KCCA est éliminé. Dans le groupe B, le TP Mazembe a concédé le nul 1-1 en Algérie face à l'Entente Sétif. Néanmoins, les Corbeaux sont solidement en tête avec 11 points. La dernière journée promet d'être chaude puisque Difa El Jadida a battu le MC Alger 2-0. Ces deux équipes ainsi que l'Entente Sétif comptent en effet 5 unités. Grâce à sa victoire 1-0 face au Mamelodi Sundowns, le Wydad Casablanca compte désormais 11 points et est quasiment assuré de terminer en tête de sa poule. Un groupe C dont la deuxième place se jouera entre les Mamelodi Sundowns et le Oroya AC, le club guinéen qui a battu l'AS Togo Port 2-1. Enfin, dans le groupe D, l'Étoile du Sahel a été tenue en échec par les Angolais du Primeiro de Agosto, un peu partout, mais qualifiée pour le tour suivant. La deuxième place de cette poule se jouera entre le club angolais ainsi qu'entre le Zesco United et les Mbabane Swallows, le Zesco qui est allé gagner 3-0 au Swaziland. En Coupe de la Confédération, cette fois, l'AS Vita Club a battu le Raja Casablanca 2-0. Des buts signés Fabrice Ngoma et Jean-Marc Makoussou. Les Congolais sont qualifiés pour les quarts de finale, tandis que les Marocains seront à la lutte avec l'ASEC Mimosa pour la deuxième place du groupe A. Les Ivoiriens qui sont allés gagner 2-0 face aux Adouana Stars. Des buts signés Gbagno Badier et Brasiano Tabi. Groupe B maintenant avec la Renaissance de Berkane qui est allé gagner 2-0 au Soudan face à El Hilal et qui est qualifié pour le tour suivant, tout comme Al Masry malgré son nul 1-1 au Mozambique face à l'UD Songo. Tout reste à jouer dans le groupe C puisque grâce à Glenn Kinfunia, Kabwe Kivutuka et Kristen Goma, le Kara Brazzaville a battu le Williamsville Athletic Club 3-1. De son côté, les Nigérians Dani Emba sont allés gagner 1-0 au Mali face au Joliba. Le Kara Brazzaville compte 9 points, tout comme Enyimba, tandis que Williamsville est à 2 longueurs et peut encore espérer se qualifier. Enfin, dans le groupe D, là aussi, tout est encore possible, puisque grâce à sa victoire 2-1 sur Gor Maria, les Gabonais du Rayon Sport comptent désormais 6 points et n'ont pas dit leur dernier mot. En effet, ils ne sont qu'à 2 points de leur adversaire du jour, ainsi qu'à 2 points de l'USM Alger, qui s'est incliné 2-1 en Tanzanie sur la pelouse des Young Africans. La prochaine et dernière journée de la phase de groupe des compétitions continentales aura lieu à la fin du mois. Ce sera les 28 et 29 août prochains.
Merci beaucoup, Ali Farhat, pour cette chronique sportive. Et la prochaine chronique sportive est à retrouver dans notre journal de 17h en temps universel, bien sûr, sur les ondes de la DW.
À vous la parole.
Le 19 août 2017, le Parti national panafricain PNP de Tigpi Hachadam au Togo avait tenu de grandes manifestations synchronisées dans les villes de Lomé, Agné, Sokodé, Bafilo et Kara pour réclamer le départ du chef de l'État fort Niasimbe. Elles avaient été violemment réprimées dans le sens. En était suivi un grand mouvement de contestation au Togo mais aussi à l'étranger.
Depuis, une feuille de route de la CDAO avait été mise au point pour tenter de sortir de cette crise. Un an après, où en est le Togo? Réaction de nos auditeurs et internautes, et des réactions compilées par Claire-Marie Kosman.
Un an après ces manifestations, le Togo demeure toujours dans l'obscurité, selon Mathieu d'Atapamé. Ces manifestations ne sont que du gâchis de temps, explique cet internaute, qui a une pensée pour le sang versé par les innocents lors de ces protestations. Les Togolais s'embourbent dans la misère de jour en jour, déplore également Kossi à Lomé, mais lui veut le départ du président Faure Gnassingbé en 2020, qui gère l'affaire, je cite, « de façon médiocre ». On a constaté une avancée, car avant, les gens n'avaient pas tellement de liberté d'expression ni de liberté de manifestation dans certains villages et villes, explique Abdou Malik de Lomé. Avec le mouvement du PNP, c'est mieux désormais, mais ça dure, il faut que Faure parte. 50 ans, ça suffit, c'est trop pour une seule famille. Le président Faure Gnassingbé a succédé en 2005 à son père, lui-même resté 38 ans au pouvoir. J'ai 40 ans et je n'ai connu que la famille au pouvoir, s'indigne Ibrahima, qui demande au peuple togolais de se lever, mais il regrette que la CDAO n'ait pas permis de faire avancer la situation. Elle ne devait pas s'en mêler, il fallait laisser les opposants régler la crise à leur manière. Au contraire, Dossou depuis Lomé voit qu'il y a une avancée car le climat politique n'est plus le même grâce à cette feuille de route de la CDAO qui a mis en branle le processus électoral actuel. Désormais, on a une élection présidentielle à deux tours, il faut déjà saluer cela tout en espérant d'autres progrès. L'intervention de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est aussi appréciée par Claude depuis Lomé. Il note que la recomposition de la Cour constitutionnelle et le fichier électoral sont significatifs et cela a eu le mérite de fédérer l'opposition et de mobiliser même la diaspora. Je vous rappelle que les chefs d'État ont exhorté le gouvernement togolais à procéder à la révision intégrale du fichier électoral en vue de l'organisation en décembre des élections législatives. Ils ont concédé 2 points à l'opposition, le vote de la diaspora et le scrutin 2 tours pour la présidentielle de 2020. Mais ils n'ont pas précisé si la limitation à 2 mandats présidentiels s'applique au prochain scrutin dans 2 ans.
Merci à vous de nous avoir suivis. L'heure est venue pour nous de refermer cette édition. Mais avant de se quitter, Sandrine, que faut-il retenir de l'actualité de ce lundi 20 août ?
Pour une fois, une information, c'est l'annonce dans 1h30 par la Cour constitutionnelle au Mali des résultats définitifs du second tour de la présidentielle. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, continue de contester les résultats partiels qui donnent le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, largement vainqueur de ce scrutin. Une grande marche a eu lieu ce week-end à l'appel de l'opposition pour contester ces résultats. Vous pouvez retrouver sur notre site internet dw.com/français l'intégralité de l'interview exclusive que nous a accordée Soumaïla Cissé à Bamako.
Merci beaucoup Sandrine, merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est à 17h en temps universel sur les ondes de la DW. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Tchuss et à ce soir.
Bonne journée.